Wilfried Gontran, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicien, vous êtes formateur et chargé d'enseignement en psychologie à l'université de Toulouse, et puis également vous travaillez au Vietnam, à l'université des sciences sociales et humaines. Alors bien sûr sur cette problématique adolescente, vous travaillez notamment actuellement une réflexion sur les significations du phénomène transgenre durant l'enfance et l'adolescence, et votre propos c'est de savoir finalement en France apparemment on sait répondre aux besoins des adolescents, mais nous occultons complètement leurs désirs. Donc vous allez intervenir sur cette articulation entre la demande, le désir et les besoins.
Je remercie les organisateurs de cette journée d'études pour cette invitation à parler autour de la demande adolescente. Et je les remercie bien sûr aussi de leur persévérance à créer cette rencontre, après tout de même deux annulations. Le désir a survécu au Covid, mais je ne dirais pas, et de tout le reste. Pour vous résumer mon propos à venir, je reprends l'argument que j'avais proposé pour cette journée il y a plus de 2 ans déjà, et je ne vois rien à y modifier, au contraire. Force est de constater que l'adolescent qui va mal jette le trouble autour de lui au point de provoquer parfois de grands mouvements d'agitation. Ceux-ci trahissent avant tout l'émergence d'une angoisse. Je rajoute angoisse aussi bien du jeune que de ceux qui l'entourent. Pourquoi le malaise adolescent peut-il en venir à perturber autant autour de lui? La stratégie pour sortir de l'engrenage parfois infernal des agirs des adolescents serait de récolter le fruit de leurs demandes. Car celle-ci, il est attendu qu'elle vaille comme expression de malaise qui viendrait par là à disparaître ou à tout le moins s'atténuer. Diantre, qu'il nous dise enfin ce qu'il veut et tout ira mieux. L'adolescent s'en trouverait apaisé et ceux qui l'entourent pourraient retrouver le cours rassurant des choses stables et continues. Mais ce fort intérêt de son entourage pour la demande de l'adolescent, parfois jusqu'à une certaine focalisation, voire obsession, n'aura-t-il pas des effets sur la demande elle-même de l'adolescent, ses difficultés à demander? Et ce, d'autant plus dans un contexte sociétal d'hypernormativisation auquel les politiques sociales qui gouvernent les institutions ne vont bien sûr pas échapper. On entrevoit alors les raisons d'une certaine rigueur éthique de l'adolescent à s'évertuer, à échapper à ses autres. Car la tendance actuelle va à la focalisation sur les besoins des dits usagers, dont l'identification est censée donner les clés du problème et décider des réponses à apporter. Mais quelle peine encourue si nous venons à réduire la demande de l'adolescent à l'expression des besoins de celui-ci. Bien entendu, l'équation demande-besoin ne peut se résoudre qu'à introduire un troisième terme, le désir. Aucune chance que l'adolescent puisse demander ce dont il aurait besoin si un autre n'est pas là pour accueillir avant tout son désir en construction. Et last but not least, l'adolescent est aussi aux prises avec des spécificités de la demande inhérentes à ce qu'est la problématique adolescente elle-même, ce dont nous aurons aussi à tenir compte. Voilà, c'était donc le résumé que j'avais proposé pour mon intervention et donc qui vous annonce mon propos. Je ne disais que je ne vois rien à y modifier, mais entre-temps, de l'eau a coulé sous les ponts. Et ce qui s'est passé pas plus tard que samedi dernier à Toulouse m'impose quelques déviations dans ce que j'ai à vous dire. Dans le cadre des activités du Master de psychologie de l'enfant et adolescent de Toulouse, j'ai initié il y a plusieurs années déjà l'organisation d'une conférence venant clôturer chaque année universitaire, co-construite avec les étudiants de ce master et ouverte à tout praticien. L'an dernier, nous avions accueilli 2 professionnels bruxellois de la maison d'ado Area Plus de l'ASBL Epsilon, Alexandre Ben, psychiatre directeur des 5 unités psychiatriques de cette maison d'ado Area Plus, et Alain Rosenberg, psychologue responsable de la coordination thérapeutique du TIPI, hôpital de jour pour adolescents, une des 5 unités. Ces deux praticiens de l'adolescence nous avaient fait part de leur réflexion sur cet irrépressible attrait, pour ne pas dire attraction, des adolescents pour les réseaux sociaux. Et fort du succès remporté par leur intervention, nous les avons invités une seconde fois samedi dernier, dans le même cadre, à s'exprimer sous le titre « Quand les ados parlent de genre, que nous disent-ils ?» Nous nous attendions d'emblée à des interpellations venant d'associations type LGBT plus QIA+, et après des prises de contact et échanges officieux, des personnes d'association appelées tout d'abord en leur nom propre, sans représenter l'association, ce qui nous rendait la tâche compliquée, eh bien nous avons fini par être interpellés officiellement 2 semaines avant l'événement, via la chargée de mission de lutte contre les discriminations et le harcèlement à l'université. Donc c'est une personne qui est rattachée directement au cabinet de la présidence et qui s'occupe de la gestion de la lutte contre les discriminations et le harcèlement dans toute l'université. Qu'est-ce qu'un PsySafe ? Selon le réseau PsySafe inclusif, je cite, être une psy située, c'est être une professionnelle qui prend en compte les notions de privilège et d'oppression en reconnaissant qu'elle traverse les représentations et les constructions identitaires. Fin de citation. Cette information nous intéresse aussi car nous en déduisons qu'il y a par conséquent des psys non safe, ceux qui ne mettent pas au centre de leur approche les notions de privilège et d'oppression. Alors bien sûr, nous sommes là dans un tout autre paradigme que celui d'une pratique référée à l'éthique du sujet, une pratique dite située et non pas orientée, comme nous avons l'habitude de le dire. Il va falloir s'habituer à ce vocabulaire. Privilège et oppression y deviennent, semble-t-il, la grille d'analyse privilégiée pour la pratique de ces psy-safe. Et nos deux invités bruxellois ne furent, semble-t-il, pas comptés dans la liste des psy-safe. Alexandre Ben et son collègue avaient préparé 4 cas cliniques, 4 trajectoires d'adolescents accueillis dans différentes unités d'Area Plus, la maison d'ado, portant une demande transgenre, c'est-à-dire une demande de transition de genre. 4 trajectoires choisies au regard de la différence de leur issue, allant du projet de transition confirmé à l'abandon du projet. Donc, une diversité des trajectoires que ces 2 cliniciens se sont contentés d'accompagner sans jugement, comme ils le feraient dans n'importe quel type de demande d'adolescents en souffrance. Et ceci, le rejet de la diversité, constitue à mon sens un élément clé de l'affaire. Qu'en définitive, qu'une position psychique transgenre concevable, et donc qu'une façon de l'accompagner, ce que tout clinicien, de l'adolescence notamment, mais pas que, invalidera tant les parcours sont là encore différents, y compris, j'y insiste, dans le devenir de la demande de transition. Nous reviendrons sur cette modalité de demande adolescente que j'ai choisi d'appeler revendication transgenre. Notre conférence de samedi n'a pas échappé au scénario qui se répète à peu près partout actuellement, en France mais hors de France aussi, quand on essaie de traiter dans une manifestation publique de la thématique du genre. Alors, je ne sais pas si vous êtes vraiment au courant en Creuse, mais je vais vous donner là un exemple. Le sabordage par tous les moyens de l'événement et malheureusement jusqu'à l'agression physique de l'intervenant. Un activiste a foncé sur le docteur Ben, lui arrachant ses feuilles des mains en en déchirant quelques-unes. Le docteur Ben ne se laissant pas faire, l'activiste a pris la fuite après un corps à corps qui aura permis au docteur Ben de récupérer certes par la force, son écrit. C'est pour ça que je tiens bien mes trucs en main. Un écrit qui, sans cela, aurait pu être utilisé pour la bonne cause, mais tout de même en toute illégalité. Tout ceci s'est déroulé dans un moment où les psy-trans discutaient de leurs revendications. Nous comprenons qu'ils revendiquent une pratique clinique avec les personnes trans du fait, notamment, d'être ce qu'ils appellent des personnes concernées. Voilà un autre terme, il va falloir s'y habituer. Après la pratique située, nous avons affaire à des personnes concernées. Et donc, vous avez compris, les non-concernés. Voilà. Ce terme de personnes concernées est revenu à plusieurs reprises. Il s'agirait de laisser les personnes concernées, celles qui vivent la chose en question, la transidentité, jusque dans leur corps, ce qui les rendrait de ce fait détentrices d'un savoir adéquat sur la chose, presque automatiquement. Laisser les personnes concernées s'occuper d'accompagner psychologiquement les demandeurs de transition. Il est là proposé de se former à ce qui est avancé comme de bonnes pratiques, là aussi il y en a pour ça aussi, adaptées à cette problématique transgenre. Il me semble que nos interlocuteurs se référaient même aux recommandations de l'OMS. Plusieurs fois, sans rien en savoir au bout du compte, les activistes ont reproché à nos intervenants de ne pas avoir suivi les formations spécialisées dans le domaine cuir. Ils partaient de ce principe sans rien en savoir réellement et continuaient leurs reproches malgré le fait que le docteur Ben leur disait qu'il avait justement suivi ce type de formation à Bruxelles. Mais pour eux, c'était décidé. Ils faisaient partie des psychanalystes, des psys non safe. La psychanalyse, une discipline, je cite, qui a du sang sur les mains, comme cela a été dit publiquement. La conférence n'a donc jamais pu démarrer et aucun dialogue n'a réellement pu être établi. Au cours des deux dernières semaines, deux événements similaires, avec le même mode opératoire, dont agression physique de l'intervenant, ont eu lieu à Genève. Le premier, autour de la venue à l'université de Mesdames Caroline Eliachef et Céline Masson, deux psychanalystes auteurs de La Fabrique de l'enfant transgenre, et plus récemment Éric Marty, professeur de littérature à Paris 7, autour de son ouvrage désormais reconnu majeur, Le sexe des modernes, pensée du neutre et théorie du genre. À peine arrivé dans l'amphi, Éric Marty est aspergé d'eau, de gel hydroalcoolique, se fait cracher dessus et de scander « Éric, ton bouquin c'est de la merde, on ne l'a pas lu ». Et tout comme pour le docteur Ben, les feuilles de sa conférence ont été subtilisées et déchirées avant qu'il en lise la moindre ligne. S'attaquer au texte ne me semble pas un détail anodin dans ce mode opératoire bien huilé. Il y a une attaque du savoir, de la réflexion, de la pensée, du signifiant lui-même, sans doute. Ce type de revendication transgenre ne souffre d'aucune discussion, car la vérité se trouve tout simplement dans le ressenti de genre. Voilà l'hypothèse centrale. Caroline Masson en fait d'ailleurs une sorte d'idéologie, ce qu'elle appelle le ressentisme. Voilà autre chose, un troisième terme auquel il va falloir s'habituer. Le ressentisme. Je ressens. Je ressens donc, c'est vrai. Ce n'est plus le désir, c'est le désir de l'autre, formulation au cœur de l'orientation lacanienne des pratiques. Ce qui veut dire que ce n'est pas possible d'envisager la question de son désir sans la penser au regard du désir de l'autre. Aliénation symbolique, constitutive du sujet dans cette théorie. Dans le cas de la pratique située, donc des psy-safe, je formulerai plutôt ainsi son hypothèse centrale. Personne mieux que moi ne sait ce que je désire. Donc, un désir qui ne se pense pas dans la référence à l'autre. Au final, de ce désir, Rien ne peut en être questionné, sans quoi je serai immédiatement suspecté de transphobie. Quelle est cette logique qui fait de moi un transphobe du simple fait de questionner ? Questionner, cela signifie parler autour. C'est le fait d'être tout simplement deux, et qu'à ce compte-là, du fait de ma seule différence de l'autre, quelque chose m'échappe de ce qu'il pense, fait, et ainsi, cela peut me questionner. En aucun cas, il ne s'agit de questionner au sens de remettre en question pour pousser l'interlocuteur à changer d'avis. Questionner n'est pas synonyme de convertir. L'amalgame fait déjà des ravages. Reprenons ma démonstration. En position de questionner, je commencerai dans cette logique par ne pas reconnaître un état de fait, puisque j'adopte la forme interrogative là où ne serait valide que l'affirmative. C'est-à-dire que je serai moi-même dans une position d'emblée de déni du fait trans pour tel sujet en face de moi. Et ce déni correspondrait systématiquement et inéluctablement au rejet de ce qu'est ce sujet dans son être le plus intime, d'où ma transphobie, CQFD. Évoquer des différences, les affirmer même, pourquoi pas, correspondrait assez vite à une entreprise en soi discriminatoire. Pourtant, et j'y insiste, il convient de rappeler que le fait de la différence n'est en rien discriminant en soi. La discrimination étant un usage parmi d'autres de la différence. Donc n'assimilons pas la différence à un fait discriminatoire en soi. Je tenais à vous retracer au plus près ce qui s'est passé, afin que chacun puisse se faire son idée et que nous puissions discuter, si cela vous intéresse, de ce type de demande d'un genre somme toute un peu nouveau. Certains participants sont entrés dans une grande colère face à cette violation de notre espace de réflexion et violation de l'enceinte de l'université, car tous n'étaient pas inscrits à cette conférence, loin de là. Le récit de cet événement, qui marque déjà les esprits à Toulouse, nous permet d'appréhender ce qui est peut-être à considérer comme une modalité de demande adolescente. Il ne s'agit pas là de la demande de l'adolescent qu'on le laisse tranquille, mais une demande de l'adolescent qui entend ne pas laisser tranquille son interlocuteur. Et ça marche. Il se trouve que je suis invité à l'automne à un colloque international sur le thème du genre, et me voici en premier lieu à demander quelles sont les conditions de sécurité. Depuis samedi, je reçois beaucoup de messages de consternation et de soutien. Il y en a un qui me revient quand j'écris ces lignes, qui me vient d'un ancien collègue bruxellois, qui était là en ligne, en visioconférence, et dont la portée se clarifie au fur et à mesure que les heures passent. Le titre de la conférence était « Quand les ados parlent de genre, que nous disent-ils ?» Sa réponse a été « Wilfried, ce que nous disent les ados sur le genre, c'est qu'ils militent contre la peur de ne pas exister et de se fondre dans la masse absorbante et indifférente du collectif humain. » Je referme provisoirement la parenthèse de cette première approche, d'un style particulièrement violent, de l'actualité de la demande adolescente. Là semble être l'enjeu, être reconnu pour ce qu'on ressent de soi, demande correspondant à un impératif absolu de reconnaissance de l'être, et en tant que psychanalyste, je rajouterai, hors des voies du sexe, c'est-à-dire du côté d'un genre qui entend consister hors de ce qui, pour la psychanalyse, nous constitue pourtant fondamentalement, à savoir la différence sexuée. Penser les choses autrement, décider de considérer que la différence sexuée n'est pas l'universel de ce qui nous constitue tous. Pourquoi pas ? Je respecte pleinement qu'on puisse ne pas être d'accord avec ça, avec l'universalité de la différence sexuée. Mais c'est une autre affaire que de vouloir imposer à tous ce mode de pensée. Les activistes scandaient samedi « Pas avec nous, contre nous ». Ça laisse peu de marge de manœuvre. Après cette petite déviation, je referme la parenthèse pour aborder ce que j'annonçais en introduction dans le résumé de mon intervention. La première chose qui m'est venue à l'esprit en pensant à cette proposition faite de parler de cette difficulté, voire de ce défi pour les praticiens que constitue la demande adolescente, eh bien, ce fut de penser à la notion de besoin. Je me suis dit, si on veut appréhender au plus près l'actualité des coordonnées de la demande adolescente, il convient de s'arrêter quelque peu sur la place devenue aujourd'hui hégémonique qui est donnée aux besoins. On ne parle plus que de ça. Et prendre la mesure des incidences de cette hégémonie de besoins sur la demande, son état, son expression, la possibilité même de demander pour l'adolescent, c'est-à-dire ce qui nous réunit tous aujourd'hui. L'idée est que si l'individu souffre, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est qu'un besoin reste en souffrance du fait de son insatisfaction. Et alors, en toute logique, on va se concentrer sur l'objectif de soulager cette souffrance en mettant le paquet sur les moyens en tout genre pour y remédier. La satisfaction de nos besoins devrait garantir à elle seule notre bonheur. Cette tendance bien actuelle de réduction de la souffrance psychique à l'inassouvissement des besoins pose tout de même un problème majeur. Elle court-circuite la demande en ce que celle-ci nécessite, pour se mettre en œuvre, un mouvement de détachement du champ du besoin. Je vais y revenir à la fin de mon exposé. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qui est tendance dans la société, de ce qui est au cœur de la stratégie des politiques sociales d'aujourd'hui, à savoir l'analyse fine des besoins et l'élaboration des outils pour répondre aux objectifs. Une question se pose. Pourquoi cette promotion d'un bonheur, pensée comme l'assouvissement des besoins, plutôt que le désir de reconnaissance en jeu dans la demande? Certainement parce que cette option est plus compatible avec un impératif qui ne cesse de s'accentuer toujours plus férocement, rejoindre la norme. Le problème est que la norme n'est qu'un repère imaginaire, fluctuant au gré des sociétés et des époques, norme que nous sommes pourtant de plus en plus sommés de rejoindre, donc quelque chose qui est structurellement inatteignable. Plus cet impératif de rejoindre la norme prend le pas sur toute autre considération, plus cela devient dangereux. Je vous donne un exemple tout de suite. Plus vous vous écartez d'un QI de 100 vers le bas, plus votre niveau de déficience augmente, léger, lourd, etc. À cela, nous étions habitués. Mais à présent, plus vous vous écartez de 100 vers le haut, plus vous vous dirigez vers ce qu'on appelle aujourd'hui le haut potentiel, avec ceci de notable, qu'aussi bien le déficient que le haut potentiel sont devenus aujourd'hui, tendent à devenir, des personnes en situation de handicap et à qui, à cause de cela, souffrent. Le déficient de ne pas parvenir à suivre correctement les enseignements, le haut potentiel de s'ennuyer à l'école. Dans cette logique, on comprend que l'élève, celui qu'on appelait auparavant l'écolier, tente à être considéré comme non handicapé, pour autant qu'il rejoindrait la norme, ici 100 du QI. Le non handicapé, c'est-à-dire celui qui rejoindrait parfaitement la norme, devient dans ce système une entité de plus en plus abstraite. C'est ainsi que l'élève, je dirais normal, disparaît peu à peu comme personne. C'est son existence même comme sujet qui est sur la sellette, dans un contexte où, paradoxalement, les dispositifs d'accompagnement ne cessent de se démultiplier et de se perfectionner pour assurer au mieux sa meilleure inclusion possible. Après la SECPA, c'est ULIS, l'AVS, etc. L'ITEP devient DITEP, l'IME devient DIME, etc. Les institutions deviennent des dispositifs, ce qui est très différent. L'institution institue un sujet, ce qui signifie littéralement le fait tenir debout, alors qu'un dispositif organise le circuit des moyens pour satisfaire les besoins. Entendez rejoindre au mieux la norme alors en vigueur de ce qu'on juge une bonne adaptation sociale. Et pour cela, il faut perfectionner la réponse aux besoins de la personne. Donc, comprenez bien qu'il ne s'agit pas de remettre en question ces évolutions des dispositifs de plus en plus adaptés, qui peuvent profiter par ailleurs à bien des jeunes, mais de prendre la mesure de la manière dont ces dispositifs ne visent pas tant en vérité à s'adapter à l'élève, sa singularité, comme on dit, ça c'est faux, que de plutôt l'adapter, lui, l'élève, à la norme qu'il doit rejoindre au maximum, et pour ce faire, en prenant en compte ses particularités. Et le tour de passe-passe est joué. Les particularités ont pris le dessus sur la singularité. C'est ainsi que se sont développés les dys en tout genre, dyscalculie, dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dysmorphophobie, etc. Évolution qui montre en tout cas en quoi les symptômes des enfants ne sont plus appréhendés comme des productions de leur inconscient, mais sont réduits à l'écart à une norme. Les enfants dysfonctionnent, ni plus ni moins, et la manière dont on les considère, appréhende, accueille même, tend à être toujours plus réduit. Et ils dysfonctionnent par rapport à quoi ? Une norme. Donc, ce qu'on doit faire au niveau des accompagnements est assez clair, passer du dysfonctionnement au bon fonctionnement. Nous, les acteurs sociaux, parents, les adultes autour des jeunes, sommes pris toujours plus dans cette tyrannie de l'adaptation sociale qui fait de la norme le maître mot. Et les ados nous voient venir avec nos gros sabots normatifs. Qu'on le veuille ou pas, et dans cette position, nous sommes loin d'être à notre avantage pour recueillir le fruit de leurs intimes entrailles. Avec cette hégémonie des besoins qui transpire dans les politiques sociales, qui organisent nos dispositifs d'accompagnement, nous bouchons l'accès à ce qui nous semble pourtant le plus précieux à recueillir, la demande de l'adolescent. Qu'il nous dise enfin ce qu'il veut. Mais pour être exprimé, une demande requiert une adresse en forme d'un sujet qui soit en réelle posture d'écoute, dégagé de l'injonction à la normativisation. Et cette condition, nous avons de plus en plus de mal à la garantir à l'adolescent que nous écoutons. Il me semble que ces entraves du professionnel pour être en réelle posture d'écoute est d'un enjeu majeur pour l'orientation des pratiques de toutes les institutions qui accueillent des adolescents. Je terminerai par deux exemples pour illustrer ce que devient la tyrannie des besoins qui résulte de ce que j'ai appelé, dans mon titre, « sacralisation des besoins ». Les plateformes neurodéveloppementales. Notez au passage la véritable OPA de cette nomination, qui ne concerne pas seulement les troubles neurologiques, mais aussi les troubles psychologiques. Donc insidieusement, avec ce terme de plateforme neurodéveloppementale, insidieusement, nous sommes invités à appréhender tout trouble psychologique comme ayant une cause neurologique, ce qui bien sûr est absolument faux. Ces plateformes mettent l'accent sur le perfectionnement du diagnostic pour mieux identifier les besoins, nous dit-on, de la personne dont la souffrance se résumerait à leur toujours insatisfaction. On va ainsi produire des réponses enfin adaptées. Mais tout le monde connaît aujourd'hui ce pansement sur une jambe de bois que constituent ces plateformes qui ne sont souvent qu'une voie de transit pour tenter de passer convention avec des libéraux censés remplacer des dispositifs institutionnels de services publics à l'agonie. Est-ce que cela marche, ces plateformes ? Quand en recevrons-nous un bilan officiel ? Là encore, l'analyse des besoins serait la voie de salut. Je termine par un dernier exemple, le projet. Le fameux projet, la boussole qui va nous sauver, qui est devenu projet individualisé du jeune en institution, individualisé voulant dire adapté à ses besoins particuliers. Ceci au détriment de l'accompagnement de l'enfant au regard de ses difficultés dans le collectif, c'est-à-dire dans sa relation aux autres, à l'autre. Il s'agit de ce qui sous-tend dans le fond les PPS, PPI, etc., qui s'imposent comme la procédure à respecter dans bien des institutions aujourd'hui. L'élaboration de ces projets oriente fortement, de plus en plus, la clinique du praticien, qu'il le veuille ou pas. Avec le projet, il ne s'agit pas d'écouter une parole qui pourrait conduire à une demande, qui signifierait une reconnaissance d'une souffrance par l'individu en question. Mais le praticien est pris dans la contrainte de suivre le protocole. Phase diagnostique correspondant à l'analyse des besoins. On mesure l'écart à la norme, comment l'enfant fonctionne cognitivement, socialement, etc. Puis, deuxième phase, établissement des objectifs à atteindre et détermination des moyens à employer. Troisième phase, évaluation de l'écart entre les besoins initiaux identifiés et l'état actualisé des besoins. Comment voulez-vous que l'adolescent ou qui que ce soit d'autre engage une parole sur sa souffrance psychique s'il sait son interlocuteur pris en étau dans les arcanes d'une écoute qui ne vise dans le fond que sa normalisation ? Car les ados veulent tout sauf être normal. Ce qu'ils demandent, c'est à être reconnus dans leurs différences, dans ce qui échappe justement à la norme, c'est-à-dire là où le cœur de leur désir en gestation commence à battre puissamment. Les activistes transgenres qui défraient la chronique ne se trompent-ils pas de cible en chargeant la donnée structurelle de la différence sexuée, considérée par eux peut-être comme la norme des normes ? À l'attaque chargée. Et dans ce contexte, où le projet est ce qui donne le là, le tempo de l'organisation pédagogique et des stratégies thérapeutiques de bien des institutions aujourd'hui, les capacités réelles d'écoute de la demande par les professionnels ne cessent de s'amoindrir. Je ne dis pas qu'elles n'existent plus, je dis qu'elles s'amoindrissent. On pense projet, on réfléchit projet, et parfois on s'autorise quelques transgressions, quelques prises de risques, en sortant des sentiers battus du projet, parce qu'on a repéré qu'il y a quelque chose à entendre du sujet dans ce qui se dit. Et bien pour cela, le professionnel en vient à transgresser, à s'écarter des objectifs établis. Il doit prendre sur lui, dans une solitude inconfortable, car on pourra lui reprocher, si cela tourne mal, de ne pas avoir suivi le projet, ses objectifs pour l'enfant, etc. En tant que superviseur d'équipe dans différents champs, psychiatrique, médico-social, social, judiciaire, je prends la mesure de la manière dont le projet gouverne de plus en plus la pensée, la réflexion sur la situation des adolescents, satisfaire aux besoins dont les objectifs de prise en charge ont été déduits. Le projet est principe d'anticipation, là où la clinique se conçoit dans une temporalité d'après-coup. Voilà. Je vous fais l'économie d'un troisième exemple, que serait vous décrire les tâches dévolues aux infirmiers en psychiatrie. Tous vous le confirmeront, aucune écoute du patient n'est prévue dans leur emploi du temps, donc aucune réelle demande en perspective à prévoir. Bon, je caricature un petit peu, mais voilà. Bien sûr qu'on peut toujours essayer d'écouter, mais quand on regarde vraiment la stratégie, l'organisation de leur temps de travail et tous les papiers qu'ils doivent remplir, on se pose beaucoup de questions si le temps d'écoute est vraiment prévu dans l'organisation. Nous venons de voir en quoi l'autre de l'adolescence, c'est-à-dire nous les adultes, pouvons être dans une posture de ne pas réellement pouvoir accueillir une demande. Et intéressons-nous maintenant, et ce sera mon dernier point, aux spécificités du rapport à la demande chez l'adolescent, donc côté adolescent cette fois-ci, puisque là nous venons de voir le côté de celui qui recueille la demande, les difficultés à être dans une posture d'écouter. Maintenant, y a-t-il des spécificités du rapport à la demande chez l'adolescent? Et pour cela, j'ai besoin de m'arrêter un peu sur quelques précisions sur l'adolescence. Ma pratique professionnelle auprès des adolescents, tout d'abord comme psychologue en unité psychiatrique pour ados, puis comme formateur et superviseur d'équipe, m'a conduit à forger ce que je considère un prisme à travers lequel observer toutes les productions des adolescents. Paroles quand il y en a, symptômes, de plus en plus rares, conduite à risque, mais pas que, création en tout genre, à savoir ce que j'appelle ce prisme, la problématique psychique adolescente. Dire problématique psychique adolescente permet d'appréhender non pas ce qui se passe chez un individu à l'âge habituel de l'adolescence, mais suivant une dynamique psychique qui peut se répéter tout au long de la vie, voire au contraire, ne jamais advenir du tout. Il est communément admis aujourd'hui que l'adolescent ne correspond ni à un âge donné. On constate combien le créneau de l'âge se modifie suivant les époques et les cultures. En anglais d'ailleurs, il y a deux termes, il y a teenager et adolescente. Ça ne correspond pas non plus à la séparation des parents, qui semble aujourd'hui de plus en plus distendue, floue, même si dans les faits, cette séparation reste à jamais partielle. En définitive, nous ne nous séparons jamais de nos parents, ni de qui que ce soit. Nous construisons leur permanence symboliquement dans notre psychisme, ce qui nous permet de les lâcher un peu dans la réalité de la vie quotidienne. Ça ne correspond pas non plus à l'entrée dans la puberté. Là, je risque de faire des tressaillements un petit peu. Ça ne correspond pas non plus à l'entrée de la puberté. Pourquoi ? Parce que des enfants, c'est la clinique qui nous l'amène, il suffit de la regarder, des enfants, donc des prépubères, entrent dans l'adolescence. Par exemple, dans le cas d'abus sexuels qui propulse l'enfant précocement vers les questions adolescentes liées à la sexualité. C'est le cas de ce qu'on appelle les Lolita, par exemple. Du fait de vivre une expérience sexuelle hors de l'auto-érotisme, la masturbation sexuelle infantile, tandis que des pubères se paient le luxe, à l'inverse, de ne pas entrer dans l'adolescence en restant à jamais des enfants, certes poilus. Par exemple, le cas spécifique de la psychose. Attention donc, un adolescent peut se cacher derrière un enfant et vice-versa. Il va falloir en passer par d'autres voies pour statuer sur l'adolescence d'un adolescent. Considérons plutôt que l'adolescence constitue un moment logique possible de l'existence, possible ou pas. Et ce moment logique surviendrait suivant une crise existentielle à laquelle personne a priori ne pourrait échapper. La souffrance psychique générée par cet état de crise existentielle, que cette crise soit d'ailleurs manifeste ou pas, est principalement alimentée par une découverte absolument inopportune et douloureuse, la solitude fondamentale de l'être humain. Et cette solitude va s'avérer constituer la raison profonde de ce qu'on appelle le malaise adolescent. De quelle solitude s'agit-il ? À travers ses expériences, dans la mesure où il s'y risque, l'adolescent découvre que face à la rencontre du sexuel, je parle bien de la dimension sexuelle, qui ne se résume pas aux pratiques sexuelles à proprement dites. Il est seul face au sexuel, véritablement et absolument seul. Et pour la première fois de sa vie, seul face à un état de fait. Aucun autre n'a le savoir. Le fin mot de l'histoire sur le sexuel, quelque chose manque, et ce manque, je serai seul à devoir en assumer les conséquences pour moi, dans ma relation aux autres, à commencer par la relation amoureuse. Et cette solitude face à l'os du sexuel se redouble d'une position inconfortable face au travail psychique auquel l'adolescent doit se résoudre. D'une part, il a à se normaliser suffisamment pour, comme on dit, intégrer la société dans laquelle il vit. D'autre part, cette normalisation, destinée à lui fournir une place dans le collectif, l'adolescent aura à l'effectuer sans céder sur son désir, ce par quoi il va se singulariser. Et ce fameux désir émerge justement dans ce moment de l'adolescence. Vous entrevoyez là en quoi l'injonction normative dont je parlais à l'instant va dessiner un contexte particulier pour le travail psychique adolescentaire. Comment assumer ce processus de singularisation tout en construisant une position sociale, ce qui risque bel et bien, du fait de son action normalisatrice, de mettre en danger ce processus de singularisation lui-même. La tâche est hautement complexe, car à marge de manœuvre étroite. Et ce qui se passe actuellement avec ces activistes LGBTQI+, mais certainement avec d'autres activistes radicaux, et peut-être, je ne focalise pas sur les LGBT, hein, c'est une forme de radicalisme, et peut-être à comprendre comme une tentative, non pas d'articuler le singulier au collectif et d'en assumer les pertes afférentes, ce que je viens de rappeler du travail adolescent, mais dans ces positions radicales, de faire marcher au pas du singulier, de sa personne, le collectif. Ce qui pourrait produire une jouissance sans perte, c'est-à-dire les sirènes de l'enfance, la représentation infantile de la sexualité adulte. Tirailler l'adolescent est donc, de par cette problématique psychique spécifique qui l'anime, au cœur de cette tension universelle et inéluctable entre individuel et collectif. Et l'accompagnement de l'adolescent consisterait encore et toujours, dans quelques secteurs que ce soit, école, social, hôpital, et jusqu'aux parents eux-mêmes d'une certaine manière, à le soutenir face à cette tension, en définitive impossible à résoudre, impossible à harmoniser pleinement entre individuel et collectif. Si ce point vous intéresse, j'ai fait une conférence à Bruxelles à l'automne dernier qui s'appelait « En quoi consistent les soins psychiques aux adolescents ?» où j'ai essayé dans cette conférence, qui est disponible en ligne sur le site oedipe.org, qui reprend la grande partie de mes réflexions sur les soins psychiques aux ados. Et je développe en particulier ce point. Dit autrement, il s'agit donc pour l'adolescent de faire le deuil de l'harmonie entre les êtres humains quand ceux-ci sont à considérer désormais comme êtres sexués. La relation entre les parents figure, quant à elle, asexuée et toujours fantasmatiquement harmonieuse pour l'enfant. Leur possible divorce est donc en premier lieu une totale ineptie. Tout différemment, entre l'homme et la femme, figure sexuée, c'est toujours plus ou moins le conflit, ce que commence à toucher du doigt l'adolescent. Et la psychanalyse défend que c'est du deuil de l'harmonie qui a à attendre un apaisement qui va correspondre à un certain mieux-être durable. Mais bon, on peut peut-être aussi être bouddhiste et réussir à être pleinement heureux. Ça marche aussi, pas de problème. Plutôt qu'un affrontement aux parents, l'adolescent s'affronte donc, et ça c'est quelque chose que je voudrais vraiment, que je défends, que je voudrais vraiment dire à tous les professionnels de l'adolescence. Plutôt qu'un affrontement aux parents, l'adolescent s'affronte donc, dans le fond, au processus de construction de son désir. Ce qui implique une chose très compliquée. apprendre à faire des choix. Et faire des choix confronte immédiatement à un consentement douloureux. Accepter de perdre. Une perte qu'il faudra que l'adolescent assume comme celle résultant de sa propre décision et non plus celle de ses parents réduite à une alternance entre donateur et privateur. En effet, le principe du choix est que si vous choisissez quelque chose, vous perdez du même coup tout ce que vous n'avez pas choisi. Jusqu'ici, quand mes parents décidaient pour moi, je pouvais au moins avoir l'échappatoire de la litanie des reproches à leur encontre. Vous ne me comprenez pas, vous êtes vieux, dépassé. En somme, il s'agit pour l'adolescent d'apprendre à accepter, de devenir responsable de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il choisit, d'assumer ses décisions. Et dans cette entreprise, je le répète, il sera inéluctablement seul. Et les parents seront impuissants à étancher la douleur de cette solitude, ce qui va constituer la raison profonde des griefs adolescents à leur encontre. La consolation jusqu'ici si puissante des parents trouve sa cruelle limite quand l'adolescent s'affronte à ce qu'il y a au cœur de l'existence humaine, en définitive la mort, dont les différentes figures sont omniprésentes dans les productions des adolescents. Bon, je passe un certain passage pour arriver à ma conclusion. Pour finir, que déduire des spécificités de la demande chez l'adolescent, étant donné ce que nous venons de voir concernant les spécificités de la problématique psychique adolescente. Rappelons que pour la psychanalyse, suivant la théorie lacanienne, la demande est toujours demande d'amour, demande de reconnaissance, une demande affective qui ne conçoit aucune concurrence, une demande dite inconditionnelle. Et dès lors qu'un quelconque besoin, afin d'être satisfait, devait s'exprimer par les voies de la parole, sous la forme d'une demande, ce qui fait l'objet du besoin, manger, boire ou tout autre besoin, est écrasé par l'enjeu de preuve d'amour de l'autre qui est au cœur de toute demande. Et le désir, c'est à proprement dit ce qui reste du besoin une fois sa traduction écrasante en demande. Je cite Lacan, « La demande en soi porte sur autre chose que les satisfactions qu'elle appelle et les demandes d'une présence ou d'une absence. » Voilà la version lacanienne de la demande. Qu'en déduire pour ce qui serait spécifique à la demande de l'adolescent? Suivant ce que nous avons vu de la problématique adolescente, celle-ci consiste en une opération de sexuation du monde qui va avoir pour effet notamment de transmuter le besoin vers sa version sexuée. La demande qui doit porter ce besoin d'un nouveau genre, si j'ose dire, patine, se met à dysfonctionner chez celui qui entre dans l'adolescence. Jusqu'ici, l'expression du besoin à travers la demande servait un impératif de reconnaissance absolue dans l'amour du parent, de l'autre, de celui dont je veux être aimé. Et l'ascension du sexuel au champ de l'autre, et non plus un sexuel réduit à ce qui me fait plaisir en le touchant dans ma culotte, a pour effet de contaminer de cette maladie fondamentalement sexuelle, le besoin. Le besoin, se sexualisant, ne peut plus être porté par la demande comme au temps où l'enfant demandait un camion au Père Noël. Un plus gros engin que son frère, qui avait commandé une voiture, certes télécommandée, mais plus petite que le camion. L'octroi d'un plus gros engin étant ici considéré par l'enfant comme la preuve d'un amour du parent plus grand que celui pour le petit frère. Le besoin sexualisé, si j'ose dire, est un besoin qui ne se demande pas. Et on ne comprend pas, et on comprend par là cette sorte de retrait, j'ai parlé de dysfonctionnement, premier réflexe de l'adolescent en herbe qui ne sait plus comment demander, qui est désorienté. Demander un baiser à une fille qui anime notre désir, ça ne se pense pas pareil que lorsqu'on demande un camion au Père Noël. Cela mobilise un registre tout à fait nouveau et il faut considérer les difficultés des adolescents à demander à ce niveau d'un renouveau de la demande, d'une reconstruction du rapport à la demande, ce qui va prendre un certain temps, le temps de la construction d'un désir sexué, c'est-à-dire un désir orienté par un fantasme. Et dans l'intervalle, l'adolescent risque de se mettre en stand-by. Nous parlons là de la demande amoureuse, mais il faut bien considérer que c'est tout le champ des demandes de l'adolescent qui sera impacté par cette épreuve d'un nouveau désir à construire, le désir sexué. Tout ceci est un peu, voire beaucoup technique, je l'entends, mais j'en parle quand même pour indiquer qu'il y a quelque chose en jeu dans le retrait de l'adolescent, des investissements qu'il avait jusqu'ici comme enfant, quelque chose à comprendre au sens d'accepter, retrait qui se manifeste dans la vie quotidienne, dans des attitudes de refus de parler, d'apathie, voire de dépression. La demande des activistes LGBTQI+, d'être reconnus dans leurs différences et de ne pas en être discriminés, qu'en dire ? Et je terminerai là-dessus. Comme je vous l'ai dit, son mode revendicatif et injonctif ne semble pas sous-tendu par un désir qui ferait sa place à l'autre. Le désir, c'est le désir de l'autre. Cherchant mon être dans le plus profond de moi-même, et non pas dans la relation à l'autre et sa dimension intrinsèque de conflit, est-ce que je ne m'enferme pas dans le circuit fermé du besoin ? Ce qui, dans ce mouvement, me conduirait à occulter le désir derrière l'urgence vitale du besoin, jusqu'à la violence comme mode de survie. Et je rejoins là la proposition de mon collègue belge, ultime élan d'existence. Ce n'est que le début d'une réflexion, et en tous les cas, une hypothèse parmi d'autres, pour appréhender ce phénomène de plus en plus massif et radical de certaines revendications transgenres à l'adolescence dans la jeunesse. Les demandes des adolescents se complexifient et diversifient toujours plus. Gageons qu'elles renferment toujours une vérité sur l'état actualisé de notre monde. Je vous remercie de votre attention.